Radio Chablais,
spéciale élection.
Le peuple vaudois est appelé à renouveler ses députés au Grand Conseil le 20 mars prochain. Les 150 membres du Parlement seront élus pour la prochaine législature 2022-2027. Rappelons que pour cette élection, le canton est divisé en 10 arrondissements, dont 3 d'entre eux sont subdivisés en sous-arrondissements. Et ce soir, nous allons nous intéresser au sous-arrondissement Vevey-Riviera. 14 sièges sont à repourvoir et 111 candidates et candidats sont en lice pour représenter la Riviera au Parlement. À noter enfin que 9 listes ont été déposées pour cette élection au Grand Conseil vaudois, avec dans l'ordre du tirage au sort l'Alliance des Libertés, les Verts Riviera, le PLR, l'UDC Riviera, le Parti Socialiste, les Verts Libéraux, le Centre, Décroissance Alternative, les Libres Riviera et enfin le POP, Parti Ouvrier Populaire. Ce soir, la parole est donc donnée aux candidates et candidats de la Riviera et le débat se déroulera de la manière suivante. 2 grandes thématiques seront abordées et pour chaque thématique, une personne défendra le programme de sa liste. A noter enfin qu'aucun des 6 candidats du mouvement Droit et Liberté de la liste Alliance des Libertés n'est représenté ce soir, le débat étant enregistré durant la période sanitaire qui exige le pass 2G. Or, aucun candidat de la liste n'est au bénéfice d'un pass sanitaire et ne répond aux critères édictés par la Confédération. Afin d'offrir un temps de parole équitable, vous retrouverez juste après ce débat un enregistrement du mouvement Droit et Liberté. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un rapide tour de table de présentation des candidates et candidats par ordre de tirage au sort des listes. Pour les Verts Riviera, Emmanuel Samatani, bonsoir.
Bonsoir.
Pour le PLR, Olivier Marc, bonsoir.
Bonsoir.
L'UDC Riviera est représenté par Nicolas Fardel, bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Cédric Bussy pour le Parti Socialiste, bonsoir.
Bonsoir.
Les Verts Libéraux, le Centre sont représentés pour ce premier débat par Sylvain Jacquard, bonsoir.
Bonsoir.
Décroissance Alternative présente et représentée plutôt par Alain Gontier, bonsoir.
Oui, bonsoir aussi.
Suzanne Larbert-Fours pour les Libres Riviera, bonsoir madame.
Bonsoir.
Et enfin pour le Parti Ouvrier Populaire, Ivo Piazza, bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Plus de 100 candidats pour 14 sièges, le peuple vaudois aura donc un large choix. Alors que signifie pour vous cet engagement politique au sein de votre liste? Un engagement qui n'est pas que politique, hein. Il y a aussi un engagement humain derrière tout ça. Alors on va peut-être faire un tour de table, on va commencer avec vous monsieur Piazza pour le POP. Que représente cet engagement au sein de votre liste?
Alors, il faut déjà savoir que moi je suis tout neuf dans le game politique.
Il faut du sang neuf, il faut du sang.
Oui, oui. J'ai toujours eu des idées à gauche. Tout au long de ma vie, elles se sont renforcées. Et puis, voilà, 2 ans, je me suis dit que j'allais un peu m'engager activement, disons plus que sur Facebook. Et de fil en aiguille, je me retrouve ici, voilà. Non, enfin...
Donc on aura l'occasion de comprendre aussi les raisons qui vous poussent à être sur cette liste POP. Oui. Suzanne Larbert-Fürst pour les Libres Riviera.
Merci beaucoup. Oui, je pense que notre système démocratique en Suisse est unique. Il faut s'engager et c'est qui? Nous toutes et tous. Et je pense qu'en conseil communal, c'est idéal pour s'engager localement. Je pense que notre système ne fonctionne pas. Il faut un système de base, il faut que des gens qui s'engagent. De mon côté, je suis entrepreneuse, je sais ce que c'est créer des places de travail, je sais ce que c'est payer des salaires et j'estime que également cette compétence est nécessaire pour avoir un certain sens de réalité dans la politique, pour que les choses bougent également, pour qu'il y ait des places de travail.
Alain Gontier, pour Décroissance Alternative, cette démarche de vous présenter sur la liste pour le Grand Conseil.
C'est dans une certaine droite ligne d'un engagement assez ancien. Le conseil communal à Vevey depuis pas mal d'années, disons, pour rester modeste. Et puis, il y a des urgences aujourd'hui qui se posent, sociales, sanitaires, sur lesquelles il faut s'engager. Il faut avoir un débat sérieux. Tout ça passera par la conviction de la population. On ne fera rien par des mesures autoritaires, on ne fera rien sans qu'on arrive à montrer la nécessité de ces mesures. Et ces mesures sont urgentes, c'est plus que jamais le moment de s'engager.
Sylvain Jacquard pour les Verts Libéraux, le Centre.
La Riviera d'ici 2040, c'est plus 21% d'habitants, c'est plus 9000 emplois à créer, à maintenir, à trouver. Ceci, ça aura des impacts, disons, sur beaucoup d'éléments, sur la formation, sur la mobilité, sur l'environnement, sur voilà, tous ces aspects qui font notre quotidien et qui font notre qualité de vie, à savoir est-ce qu'elle va augmenter ou diminuer. C'est là-dedans que j'ai envie de m'engager, clairement, et c'est là-dedans que nous avons envie, les Verts libéraux, de nous engager pour trouver des solutions à la fois pragmatiques et économiques. Je suis heureux de voir qu'il y a des entrepreneurs autour de la table, je me réjouis de débattre, parce que c'est effectivement eux qui créent des places de travail, et c'est pour cet écosystème-là que j'ai envie de me battre pour ces élections et pour la suite.
Même question pour vous, Cédric Bussier, pour le Parti Socialiste.
Oui, ben je dirais que c'est un engagement, le prolongement d'un engagement de longue date autour de valeurs de solidarité et d'équité. Je pense que l'engagement citoyen, il est à la fois absolument passionnant, mais il est surtout absolument nécessaire aujourd'hui face aux défis de l'avenir. Je pense notamment à l'écart qui se creuse entre les salaires et puis les défis à la fois climatiques, sociaux et la transformation numérique. Donc je pense que c'est une période qui est tout à fait charnière et dans laquelle j'ai envie de pouvoir poser ma pierre.
Nicolas Fardel pour l'UDC Riviera, votre engagement sur cette liste de l'UDC pour le Grand Conseil.
Oui, merci. Alors pour moi, ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis engagé à l'UDC, au Conseil communal de la Tour de Paix, maintenant à la présidence de la Commission des Finances, et puis au niveau professionnel, j'occupe la fonction de secrétaire général de l'UDC Vaud. Donc je suis tous les mardis au Grand Conseil et j'ai l'occasion de les écouter débattre sur les différents sujets d'actualité. Donc ça me tenait à cœur de me présenter à ces élections. Ayant déjà un pied dedans, j'ai déjà une bonne expérience de des sujets qui sont en cours, que ce soit la fiscalité, que ce soit la mobilité, qui est un grand sujet pour nous, la sécurité. Et puis voilà, j'avais envie de m'engager pour le district, pour représenter les enjeux de la Riviera au Parlement de Lausanne.
Merci beaucoup Olivier Marc pour le PLR.
Dans ma carrière, j'ai eu la chance de vivre des fortunes et d'exercer donc des métiers, des fonctions différentes, sans jamais perdre mon optimisme. Après cette pandémie, la société devra vraiment répondre à des questions fondamentales. Après ces 2 ans, on en a expérimenté vraiment des choses très, très, très importantes, tous. Et puis la question, c'est quelle mission l'État va pouvoir accomplir dans ce cadre? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour tirer bénéfice de ce qu'on a vécu pendant ces 2 ans ensemble? Et j'aimerais pouvoir m'impliquer activement dans la vie publique avec mon expérience, puis apporter cette vision optimiste de la société.
Et pour terminer ce tour de table, Emmanuel Samatani pour Les Verts Riviera.
Alors Les Verts, ça veut tout dire.
Les Verts,
mais j'ai entendu le mot entrepreneuriat et j'aimerais que l'on arrête d'opposer écologie et entrepreneuriat. Je suis moi-même de formation biologiste moléculaire et ça fait 14 ans que je suis sur un projet de tourisme responsable. Donc je travaille sur un labo tous les jours et j'ai eu un engagement pas loin d'Alain Gontier, d'ailleurs, on a un peu partagé les mêmes engagements pour les services publics, pour l'engagement citoyen. Et puis maintenant, je me sens mûr. Après, avec cette expérience-là, avec ma formation de biologiste et mon expérience de création d'emploi aussi, mais cette fois dans la durabilité, peut-être que vous aussi, et j'en suis certain. Et donc voilà, tout ça fait un cocktail qui, je pense, peut répondre à pas mal de questions.
Un cocktail qu'on va essayer de savourer. Ça, vous voulez répondre, madame
Lambert? Oui, je peux volontiers rebondir, puisque je peux vous rassurer. Les places de travail que je crée, c'est dans les technologies vertes.
Voilà pour la précision. Alors, première grande thématique de la soirée, on l'a déjà très brièvement évoqué, les enjeux économiques de demain pour le canton. L'économie, bien évidemment, un thème essentiel dans le développement d'une collectivité. Alors, selon vous, quelle doit être la philosophie en termes d'investissement notamment? Est-ce que c'est la prudence ou au contraire la prise de risque? Vous ne m'en voudrez pas, mais honneur aux dames, madame Suzanne Lambert-Fürst. Est-ce qu'il faut être prudent ou au contraire, dans les années à venir, il faut savoir prendre des risques?
Moi, je pense que nous vivons dans un temps, une époque paradoxale. Je pense que nous nous rendons compte qu'il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée. Et l'économie est en essor. Et de l'autre côté, nos jeunes ne trouvent pas de place d'apprentissage. Et les petites entreprises, les restaurants, les hôtels luttent pour la survie. Alors je pense que la question se pose, quelles sont les actions qu'il faut faire précisément? Parce que chaque action posera des risques, mais il y a des choses que nous devons absolument faire. La pandémie maintenant qui touche à sa fin, comme on l'espère, à mon avis, les jeunes, souvent aussi les jeunes issus de l'immigration, ne peuvent pas se projeter dans un avenir. Et je pense que c'est exactement là que nous tous, les entreprises, mais aussi l'État, a une responsabilité. Nous devons mettre à disposition très rapidement des places de stage, etc., que ces jeunes puissent se projeter dans cet avenir pour créer cet avenir.
Alors, vous parlez de mettre en place
exactement,
des places de stage.
Ouais.
Quels sont les outils qu'on peut avoir aujourd'hui ? Est-ce que les outils doivent être financiers, structurels ? Cédric Bussy pour le Parti Socialiste.
Oui, merci. Ben, ça me permet de répondre à votre précédente question et à celle-ci dans le même coup.
Une pierre deux coups.
Moi, je pense que la réponse à votre question est absolument claire. Face aux défis de l'avenir, maintenant, il faut pouvoir investir massivement. Il faut, alors si on appelle ça un risque, moi, je n'appelle pas ça un risque, c'est plutôt une opportunité d'avenir. On a des défis en matière de durabilité au niveau climatique, au niveau de la biosphère, au niveau de durabilité sociale aussi. On sait que les emplois vont se transformer très rapidement. Les employés d'aujourd'hui devront rester qualifiés demain et aussi après-demain. Ça veut dire qu'il faut les accompagner. On a des défis pour accompagner les PME, les TPE dans la transformation numérique. On a entendu aussi tous les défis de cybersécurité. Et puis, on a aussi un creusement des précarités qui nécessite aussi des investissements massifs pour protéger notre population. Et puis là, moi, j'en appelle à une économie qui soit beaucoup plus solidaire et qui soit beaucoup plus démocratique et à une répartition des richesses qu'il va falloir accompagner et maintenant investir de manière assez importante.
Emmanuel Samatani pour Les Verts Riviera.
Alors, je corrobore parfaitement, mais j'irai plus loin. On parle de transition écologique, donc il faut absolument utiliser ce moment qui est un moment charnière pour prendre un virage absolument primordial. Et il y aura différents moyens à mettre en place, certains qui ont déjà été ébauchés au Grand Conseil, de type de revenus de transition écologique, d'accompagnement à la transition écologique, qui permet, un, de modifier et d'accompagner des gens qui sont sur des activités qui nécessitent un changement dû peut-être à un aspect polluant, un aspect qui n'est plus en accord d'un point de vue environnemental ou humain. Et ça, ce sont des actes et des démarches qu'il faut entreprendre de manière urgente.
Sylvain Jacquard pour Les Verts Libéraux, Le Centre, vous voulez réagir ? Et après, ça sera M. Piazza pour le
nous
POP.
Nous avons vécu pendant des années un assainissement des finances cantonales. Hein. On avait des milliards de dettes, il a fallu assainir, donc il a fallu économiser. On se rend compte aujourd'hui que l'État fait un certain bénéfice. On est dans les chiffres noirs, en tout cas au niveau du canton de Vaud, de façon assez intéressante et surtout avec le potentiel maintenant de pouvoir un tout petit peu plus investir dans les différents éléments qui ont été mentionnés ici. Il y a un élément pour nous qui est extrêmement important, c'est l'élément innovation. On peut discuter ce que ça veut dire vraiment l'innovation, mais c'est pour nous ce qui va créer les places de travail de demain, c'est ce qui va créer l'équité de demain ou l'accès au numérique pour tout le monde demain. Et sans innovation, pour nous, il n'y a pas de futur. Donc s'il y a un investissement, parce que la question qui se pose là derrière, c'est quand même le rôle de l'État. Est-ce qu'elle doit intervenir? Jusqu'à quel point? Est-ce qu'elle doit juste former les conditions cadres? Pour nous, on est plutôt sur la retenue, sur le rôle actif de l'État. Par contre, l'encouragement, et l'encouragement, ça peut être par exemple pour nous, clairement, d'investir dans l'innovation et aider les entreprises. C'est déjà le cas d'ailleurs dans le canton de Vaud, pour faire ces transitions d'innovation, on parle du numérique et autres, indispensable pour créer le poste de travail, créer la richesse et augmenter la qualité de vie de nos habitants.
Alors, M. Piazza et ensuite M. Gontier qui a demandé la parole également.
Oui. M. Piazza, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit M. Bussy par rapport au salaire et à la lutte contre la précarité. C'est vrai qu'il faut créer des emplois, mais il faut que ce soit des emplois durables, des emplois qui permettent de vivre. Et c'est pour ça qu'au POP, on propose le salaire minimum à 4000 francs, au moins. Du coup, ça lutterait contre la précarité. On aurait des vrais emplois et pas des emplois chez Uber. Et aussi, ça aurait moins besoin d'aide sociale. Du coup, ça c'est une proposition pour aller dans le sens que dit M. Bussy.
Alors, je pense que le salaire minimum reviendra dans quelques instants. M. Gontier ?
C'est un peu extraordinaire. J'ai l'impression d'être dans un débat des précédentes élections cantonales de 2017. Qu'est-ce que l'économie, déjà ? On a l'air de parler de l'économie comme l'affaire des entrepreneurs. L'économie, c'est fournir à la population les besoins, les choses dont elle a besoin. Après ça, comment cette économie...
De quoi a besoin la population aujourd'hui, alors ?
Comment cette économie fonctionne, c'est une autre affaire. Mais j'ai l'impression surtout que tout le monde vit dans un nuage. On est à la veille, pas de petits changements. on est à la veille de risques de gros bouleversements. Si effectivement, et les scientifiques sont quand même assez unanimes là-dessus, si effectivement l'urgence climatique est réelle, si effectivement on va demain, si rien ne change, s'il n'y a pas une gouvernance mondiale qui va changer les choses, et si les populations n'arrivent pas à faire changer les choses, si demain effectivement il y a des tas de pays qui sont invivables, soit parce qu'ils sont submergés par la mer, soit parce que les températures sont invivables, qu'il y a des réfugiés climatiques un peu partout, on va continuer à dire « moi j'investis dans les technologies vertes ». Et puis, je veux dire, c'est juste insensé. Il faut un bouleversement de cette économie. Et ce bouleversement, il doit être pris, s'il est, doit être encadré, il doit être pris par les forces étatiques.
Alors avant d'écouter M. Fardel et M. Busset, voilà. J'aimerais entendre M. Marc, on n'a pas entendu pour le PLR. Un bouleversement économique.
Alors, un bouleversement économique, surtout, il faut penser au développement. C'est bien mené, mais il faut penser au développement durable, effectivement. Le développement doit être plus qualitatif, c'est évident. Et puis, on doit revoir, c'est en fait, les critères du développement économique. Jusqu'ici, le développement économique, ça se mesurait qu'en termes de PIB. Et c'est un peu court. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes attendent davantage du développement économique. Ils attendent d'avoir des emplois à proximité. Ils attendent d'avoir des emplois où ils peuvent déterminer leur temps de travail. Ils attendent d'avoir des emplois dans les métiers qu'ils ont choisis. Et puis ça, c'est le luxe d'une économie qui fonctionne. On a la chance dans notre région d'avoir une économie qui fonctionne. Moi, je me porte en faux par rapport à cette idée.
Tout va bien alors ?
Alors, tout ne va pas bien, et c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on se présente tous. Oui, il faut revoir les critères du développement, mais ce critère, ce développement doit avoir lieu, de toute évidence. Quand j'entends parler de décroissance, je m'inquiète. Cette croissance, elle doit continuer, mais dans un esprit plus qualitatif, c'est évident.
Alors, M. Fardel pour l'UDC Riviera a demandé la parole. M. Bussy, ensuite, ça sera M. Samatani pour les Verts Riviera.
Merci. Alors, pour rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit au niveau de l'économie en général, je partage les craintes qui ont été exprimées. Pour nous, il y a clairement deux priorités maintenant qu'il faut mettre en avant afin de rétablir, on va dire, une situation qui soit favorable pour tout le monde et en particulier pour les jeunes. La première, c'est de vraiment pouvoir donner... Maintenant, on l'a bien vu avec la crise, la priorité aux entreprises de la région, que ce soit pour les adjudications publiques ou que ce soit pour les marchés de tout ce qui concerne les travaux, et puis de pouvoir donner aux jeunes la possibilité de pouvoir travailler finalement où ils sont, dans le domaine dans lequel ils ont choisi. Et malheureusement, on se rend compte que la concurrence qui vient souvent de main-d'œuvre frontalière ou concurrence qui vient souvent d'entreprises qui viennent de pays de l'Union européenne et qui ont des tarifs malheureusement plus favorables aux nôtres, péjore notre économie. Et pour maintenant relancer notre économie avec la crise qu'on a subie, ça devient important de mettre enfin une priorité pour les entreprises et pour les employés de notre région.
Alors, M. Bussy pour le Parti Socialiste, ensuite M. Samatani pour les Verts Riviera, ensuite ça sera à vous, M. Gontier, vous inquiétez pas. C'est très bien. Avec le sourire, ça fait plaisir.
Merci. Oui, ben, moi, ce qui me paraît surtout un combat du passé, c'est de vouloir d'un côté tout arrêter et puis de l'autre se calfeutrer et tout libérer à l'intérieur du pays. Moi, je pense que d'une part, effectivement, on a un défi maintenant avec une précarité grandissante. Je remercie monsieur d'avoir mis le salaire minimum sur la table. C'est effectivement une des mesures centrales qui est partagée largement à gauche et qui est centrale dans le programme du Parti Socialiste. Il faut aussi absolument protéger nos employés et les accompagner vers le futur dans cette durabilité sociale par les conventions collectives de travail, notamment dans le commerce de proximité. On met très souvent le partenariat social au centre dans notre pays et à raison. Maintenant, il faut l'appliquer puis signer ces conventions collectives de travail qu'on attend depuis trop longtemps. Mais de l'autre côté, moi, je m'oppose absolument pas à l'économie et je pense pas du tout qu'il faut mener un coup d'arrêt. On voit notamment dans la politique économique du canton, dans l'analyse qui a été faite, que la plupart des PME, des TPE et des entreprises de notre canton ont à souci et ont à cœur de se transformer vers l'avenir et de prendre soin de la biosphère, de prendre soin du climat. Par contre, ce qui manque, Ce qui manque, c'est de moyens, c'est de ressources, c'est de conseils, c'est de compétences. Et là, ben, je m'inscris en faux dans ce qui a été dit avant. Je pense que l'État a un rôle fort à jouer. L'État doit prendre son rôle pour accompagner. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'une politique économique. Eh ben, l'État central doit pouvoir accompagner à la fois ses habitants et ses entreprises.
Monsieur Samatanier pour Les Verts Riviera.
Pardon, j'ai frémi quand Monsieur Jacquard a parlé de liberté de marché, libre marché, d'innovation qui résolvent des problèmes.
Vous avez parlé de ça, mais...
Oui, vous avez parlé de moins d'État.
Et, d'innovation.
Et je pense... Non, oui, mais l'innovation, je suis bien passé pour le savoir. En biologie moléculaire, on a apporté des tas de solutions, mais l'innovation, depuis 50 ans, elle n'a pas été toujours dans le bon sens. Elle doit absolument être cadrée. Elle apporte plein de réponses. Et l'autre chose, c'est que le marché, non, le marché, il doit être cadré. Et ça, c'est un État qui doit le faire. Maintenant, le bouleversement dont vous parlez un peu en sous-jacent depuis un moment, c'est qu'effectivement, il faut une nouvelle économie. Alors, on ne parle pas forcément de revenir à la préhistoire. C'est une économie qui doit être durable et c'est une économie qui doit mettre l'être humain en avant, la qualité de vie en premier et son environnement. Donc, il y a d'autres paramètres qu'il faut mettre en ligne de compte. Et effectivement, le débat innovation, liberté de marché, c'est un débat d'arrière-garde. Excusez-moi, je respecte, mais il y a la vision, elle est devant. Et ça serait une faute professionnelle pour un chef d'entreprise ou pour un dirigeant politique de ne pas mettre tous les paramètres en ligne de compte sur la table pour mettre en place un nouveau système. Et cette économie, on la veut durable et qui intègre complètement l'environnement et l'être humain.
Donc économie, écologique, fonds bon ménage. Monsieur Gontier, vous voulez prendre la parole. Monsieur Piazza, vous avez aussi sollicité. Ensuite, ça sera monsieur Marc.
Oui, bah d'abord, on continue à parler de l'économie comme si c'était...
Bien dans le micro. Bien dans le
comme
micro.
Si c'était un tout. Désolé, l'habitude de gesticuler. comme si c'était un tout et qui était intangible, qui était défini. Ben non, c'est pas défini, on peut la définir autrement. Donc c'est ça qu'il faut, c'est pour ça qu'on est là aussi, enfin que nous, moi je suis là, c'est pour redéfinir quelle économie sera adaptée aux nouvelles conditions de demain. Quelle économie est capable d'affronter les défis climatiques ? Parce que
est-ce qu'on a la réponse ?
On nous dit que on nous dit il faut que ce soit durable. Mais ça fait combien d'années qu'on parle de développement durable et que malgré cette insistance, cette litanie de développement durable, les consommations d'énergie, de matières premières continuent à augmenter. Alors, il y a toujours, on nous dit toujours que là, on va être plus rationnel, on va mieux utiliser tout ça, la technique va y suppléer. Ben non, il y a un effet rebond et des techniques nouvelles économisent de l'énergie ou économisent des matières premières et on en profite pour en vendre beaucoup plus et dépenser encore beaucoup plus et saloper encore beaucoup plus le cadre naturel.
On va voilà. Juste Mme Suzanne Larbois-Arfousse.
Oui, pour les livres de Vira. J'ai l'impression qu'on part vraiment dans tout le sens. Je pense qu'on est candidat au Grand Conseil, au canton de Vaud. Et j'estime qu'on n'est pas au World Economic Forum de Genève. Moi, je pense qu'on a des choses concrètes à contribuer. Je pense que les grandes paroles, c'est très intéressant, mais je pense que...
Je pense que Radio Chablais,
les gens attendent de nous des propositions concrètes au lieu des grandes idéologies. Et je pense que c'est pourquoi, moi, je suis montre libre, parce que je pense que les grandes idéologies, c'est pourquoi on est contre... On va droit vers le mur, puisqu'on est dans les idéologies. Moi, je pense qu'il faut mettre vraiment maintenant notre intelligence ensemble, collaborer et trouver les bonnes solutions au niveau du canton, au niveau des communes, au niveau de la Suisse.
Alors, je vais passer la parole à M. Gontier parce que je le vois fulminer, mais après
on parle maintenant d'idéologie, mais c'est exactement cette idéologie qui ne va plus.
Je fulmine absolument pas, je rigole. Parce que les solutions concrètes pour aller où ? C'est quand même ça la question. On me dit il faut marcher. Mais on ne me dit pas vers où il faut aller. On ne me dit pas dans quelle direction. C'est juste insensé. Ce n'est pas de la politique. C'est juste du consensus mou où on veut dire les mêmes choses que les autres et que tout le monde soit d'accord. Commençons par fixer un cadre. Il y a 16 pages de propositions concrètes, mais dans un cadre qui est celui d'affronter la crise climatique. C'est ça la question. Sans ça, vous pouvez mettre 15 mesures concrètes. proposer 10 motions au Grand Conseil qui ne changeront rien parce qu'elles seront dans un cadre qui n'est pas défini.
Alors j'aimerais passer la parole à M. Piazza pour le POP. Vous voulez réagir ? Bien dans le micro.
Oui, par rapport à deux interventions. Déjà, de base, Madame Furst, vous avez parlé de, qu'il fallait revenir sur des choses concrètes. Moi, je comptais justement revenir sur une chose concrète. Nous, on avance avec 5 propositions concrètes au POP. On ne va pas dans les grandes idéologies non plus. D'ailleurs, à Vevey Libre, il me semble qu'il y en a quelques-unes qu'on partage en commun. J'aimerais revenir sur le salaire minimum. Voilà. Monsieur Fardel, justement, à la base, je voulais revenir sur ce qu'il a dit, s'inquiétait du dumping de la main-d'œuvre étrangère. Bah, justement, un salaire minimum permettrait grandement de limiter ce dumping. Et du coup, on n'aurait plus besoin de s'inquiéter comme l'UDC le fait souvent.
Alors, peut-être vous le remettez sur la table, le salaire minimum. Ouais. On va peut-être écouter aussi à droite, monsieur Olivier Marc, pour les libéraux.
Merci. Vous commencez à m'inquiéter un peu. J'entends qu'il faut donner un rôle plus important à l'État central. J'entends que l'État doit fixer des salaires minimums. Je vois qu'il y a des listes de 16 propositions que l'État doit mettre en place. Mais remettez un peu l'État à sa place. Le canton de Vaud est d'ores et déjà, a déjà un appareil administratif beaucoup trop lourd. Presque un tiers des gens dans ce canton travaillent dans le secteur public, contre 25% à Zurich. Est-ce que vous avez objectivement l'impression qu'à Zurich, il y a moins de prestations ? Est-ce que vous avez objectivement l'impression qu'à Zurich, c'est moins durable ? Est-ce que vous avez objectivement l'impression qu'à Zurich, ils ont des infrastructures moins performantes ? Mais écoutez, l'appareil étatique est d'ores et déjà trop lourd dans le canton de Vaud. On doit redonner sa place aux citoyens, on doit redonner de la liberté aux citoyens, et ce que j'ai entendu jusque-là m'interpelle au plus haut niveau.
J'aimerais entendre Sylvain Jacquard pour les Verts libéraux, le centre.
Oui, effectivement, parce que je n'ai jamais parlé de libre marché. Pour nous, le côté libéral veut dire progressiste, avant tout, dans la société. On a l'impression ici, évidemment, on débat pour le canton de Vaud, mais on vit dans un environnement. Et l'environnement, c'est l'environnement suisse, c'est respectivement l'environnement européen. J'ai la chance de soutenir dans mon métier des PME à l'international, tous les jours, qui viennent nous parler de leurs problèmes pour aller vendre leurs produits et leurs services à l'international. On gagne 1 franc sur 2 de notre richesse en dehors des frontières. On a un marché domestique qui est trop petit pour la plupart de nos sociétés. Donc la valeur, elle est créée fondamentalement, en grande partie, à l'extérieur de nos frontières. Toutes les décisions qu'on prend ici, vous pensez peut-être que nos voisins, voire même les plus grands pays, vont commencer à se dire c'est bien ce que font la Suisse, alors nous, bien ce que fait le canton de Vaud, alors nous, on va aussi reprendre ça. Ça aura un impact que si, effectivement, c'est repris à l'échelle mondiale. On voit que la gouvernance mondiale, ça ne fonctionne pas à l'heure actuelle. Il y a qu'à voir toutes les crises qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. On s'est rendu compte que les États planificateur, on l'a vu dans l'histoire, ça n'a jamais fonctionné. On a vu que les grandes révolutions, ça n'a jamais apporté rien de bon non plus au niveau de la société à long terme. Donc nous, on pense vraiment que l'unité de base, on va revenir à l'élément fondamental, c'est la personne, l'individu respectivement, l'entreprise, et faire du bottom-up, comme on dit en bon français, et non pas du top-down, parce qu'on se rend compte que voilà, c'est au niveau local qu'on arrivera à comprendre si véritablement on a besoin, on a les moyens et comment on peut agir sur notre environnement local avant d'aller dire à la Chine ou à n'importe quel autre pays qu'est-ce qu'il doit faire d'une gouvernance mondiale.
Monsieur Cédric Bussy pour le Parti Socialiste.
Oui, moi je m'inscris en faux par ce qui a été dit par Monsieur Marc avant. Il cite notamment la taille de l'État qui serait gargantuesque en nous comparant aux d'autres régions de Suisse. J'ai envie de revenir aux fondamentaux du PLR, j'ai nommé le PIB. S'il y a bien une région de Suisse qui a un PIB qui fonctionne bien, c'est le canton de Vaud. C'est une des régions quand même qui fonctionne le mieux économiquement de Suisse. Donc je pense que ça n'a pas si mal fonctionné que ça. J'entends aussi parler de liberté. Moi, j'aimerais bien que ça soit pas juste la liberté de quelques nantis, mais que ça soit la liberté de s'épanouir, de vivre de toutes et tous. Et pour ça, il faut peut-être un peu commencer à protéger ceux qui sont écrasés, notamment après la crise qu'on va vivre. Et c'est pas la main invisible de la finance qui va nous aider à le faire. Mais parfois, il faut simplement accompagner. C'est parce que c'est le rôle finalement d'un État. L'État, c'est quoi ? C'est de mettre en œuvre ensemble nos moyens sociaux et de les organiser pour accompagner notre économie, nos PME, nos toutes petites entreprises pour réaliser ceci et puis garantir un filet social qui permette de rebondir pour toutes et tous qui ont des difficultés dans la vie parce qu'il y en a beaucoup, monsieur.
Qui sont alors, Olivier Marc, j'aimerais vous poser la question. Attendez, on va juste attendre monsieur Marc qui voulait répondre. Monsieur Jacquard, à votre tour dans quelques instants.
Merci beaucoup que les entrepreneurs entrepreneurs n'ont pas besoin d'être pris par la main, d'être accompagnés pour croître, même en matière de développement durable. Vous savez, les entreprises voient très bien dans quel sens la société souhaite se diriger. Et moi, je travaille beaucoup avec des PME et je suis très impressionné de voir leur réactivité dans ce domaine. Ce dont les PME ont besoin, c'est un cadre de liberté. C'est d'avoir le moins possible de réglementation, d'avoir un cadre où elles peuvent se déployer. Vous savez que la réglementation coûte 60 milliards par année en Suisse. Ben vous déduisez ces 60 milliards, ou en tout cas une partie, par rapport à la charge des entreprises, et puis on aura déjà fait un bout par rapport à ce que les entreprises peuvent redistribuer.
Alors avant d'entendre Monsieur Jacquard, j'aimerais juste Monsieur Gontier, attendez deux secondes.
Et en réparation.
Deux secondes, Monsieur Gontier, Monsieur Samatani pour les Verts Rivera.
En politique, c'est important aussi. Avec l'oreille, on travaille beaucoup.
Monsieur Samatani, donc pour les Verts Rivera, vous voulez réagir.
Oui, un tout petit peu. Je rejoins mon collègue socialiste. Le mythe de l'État trop gros qu'il faut dégraisser. Non, l'État peut être efficace, efficient. Enfin, ça nécessite d'avoir un État efficient qui donne un cadre. Je suis parfait pour la liberté d'entreprendre, la créativité, c'est fabuleux. Mais le citoyen doit avoir son mot à dire. Il doit donner une forme à la société qu'il veut avoir. Et depuis 50 ans, je suis désolé, à part, je crois, Jimmy Carter a essayé de mettre des panneaux solaires que Ronald Reagan a enlevé à peine son élection. Donc, il y a eu des choses qui ont été faites par les entreprises à l'époque qui ont été déconstruites. Donc, on ne peut pas faire confiance à une économie de marché pour nous diriger d'un point de vue environnemental. Ça doit être fait par un État qui donne un cadre social, un cadre environnemental. Dernière chose, on ne parle que du PIB. Les Verts, on propose de faire un autre indice qui est celui de l'empreinte écologique et de la qualité de vie. Parce que c'est ce qui compte finalement. Donc quand on veut... Je veux soumettre une entreprise à un indice. On ne va pas juste regarder ou un État ou un canton à son profit, son PIB. On va peut-être regarder comment, un, il traite ces gens, quelle qualité de vie il donne et quelle santé économique il a. Donc, essayons d'élargir un tout petit peu la vision qu'on a jusqu'à présent.
Alors, c'est bien, les micros s'agitent. Je voulais passer la parole à M. Sylvain Jacquard pour les Verts libéraux, le Centre. Ensuite, Mme Suzanne Lambert-Fours pour les Libres Rivières.
Mais on parle toujours de cette... Avant, on parlait de débat, du passé, de l'époque, etc. Ici, j'entends de nouveau cette lutte des classes entre les nantis et les travailleurs, etc. Je crois qu'il faut m'expliquer qui sont les nantis. La haute finance, on est d'accord, il y a des problèmes à régler, mais ça correspond à une minorité de personnes. Le patron de PME, je m'excuse, mais pour moi, ce ne sont pas des nantis, ce sont des gens qui ont investi beaucoup, qui passent énormément d'heures, qui prennent des risques. Et puis, j'entends, on ne peut pas les traiter ainsi. Donc, moi, j'aimerais quand même revenir à finalement, qu'est-ce qu'on peut, nous, amener ici, dans l'environnement qui nous intéresse, pour essayer de faire une lutte des classes, mais plutôt pour essayer, qui pour moi n'a plus cours, mais pour essayer de faire une lutte des classes écologiques et non écologiques, plutôt de parler de lutte des classes sociales. Et là, ça deviendrait certainement plus intéressant, parce que je rejoins ma collègue des Libres, l'esprit de collaboration, l'esprit de co-construction et l'esprit de coopétition, c'est-à-dire on est en compétition, mais on peut amener des idées ensemble. Il faut arrêter avec cette lutte des classes, on n'y arrivera jamais avec ça. Et parlons plutôt de lutte entre des classes écologiques et non écologiques. Et là, on y arrivera peut-être.
Suzanne Lambert-Fürst, pour les Libres Riviera.
Oui, ce soir, je sais pourquoi je suis une Libre, puisqu'on est tous témoins ce soir, encore un débat gauche-droite. C'est vraiment ce que la population n'a plus envie. Les gens n'ont plus envie, une perte de la confiance en politique. C'est exactement à cause de ces débats que nous entendons ce soir. Ce que les gens, la population attend de nous, c'est pourquoi elles et eux vont nous donner la voix, puisqu'ils attendent des solutions de nous, des bonnes idées, des solutions. Et ces idées, on ne va pas les trouver quand on chacun dans son coin défend ses idéologies. Je pense qu'il faut construire ensemble ce soir la gauche et la droite. Tout le monde a des bonnes idées, il faut écouter l'un de l'autre et après il faut dialoguer. Et je pense que ça c'est le rôle et les incarnés à venir, c'est là que les solutions se trouveront. Et c'est pourquoi moi je m'engage en politique, le reste ne m'intéresse pas. Les idéologies ne m'intéressent pas.
J'aimerais juste entendre Nicolas Fardel de l'UDC Rivera sur ce point. Est-ce que la population en a marre de ce clivage gauche-droite? Est-ce qu'il faut passer à autre chose? Ça vous fait sourire, c'est déjà ça.
Je dirais pas que c'est gauche et droite, c'est deux idéologies qui ont chacune leur point positif, leur point négatif. On peut très bien faire de l'écologie et de l'économie en même temps. C'est pas deux éléments qui sont forcément opposés. On peut tout à fait travailler de manière écologique et faire de l'économie en même temps. Je vois pas pourquoi on est toujours obligé de faire une opposition entre ces deux points.
Là. C'est parfait ce
discours. C'était Monsieur Samatane pour les Rivières.
On peut tout à fait combiner les deux. C'est pas parce qu'on n'a pas une fibre écologique grandissante qu'on n'est pas forcément préoccupé par le problème. Et puis inversement, on peut tout à fait mettre en place des réponses à des problématiques économiques qui répondent aussi à ces problématiques-là. Donc les deux ne sont pas forcément opposés.
Alors, j'aimerais entendre M. Bussy pour le Parti Socialiste. Après, on va refaire un tour de table parce qu'on arrive gentiment à la fin de cette première thématique.
Eh ben déjà, c'était passionnant. Non, mais effectivement, moi, vous n'aimez pas le terme de lutte des classes. On n'est pas obligé de l'utiliser si vous voulez pas. Mais enfin, le capital n'a jamais été tenu entre si peu de mains et jamais aussi peu redistribué. Mais là où, en revanche, je peux donner, pour faire plaisir à Madame, raison en partie à la droite, c'est que je pense effectivement que la plupart des entrepreneurs sont conscients des défis climatiques. Mais ils ont besoin de moyens pour y répondre. Je voudrais citer ici en fin de débat, notamment le tissu extraordinaire de hautes écoles qu'on a dans le canton, et puis de plateformes aussi d'échange. Hein. On a eu des exemples récents, plus de 8 millions qui ont été investis notamment par l'État auprès des HES de santé du canton pour faire un transfert finalement de technologie, de savoir et d'expérience entre la santé et les PME et les start-up de notre canton. C'est encore un exemple où l'État doit intervenir pour accompagner cette transformation numérique. Alors oui, effectivement, il ne faut pas opposer toujours économie et solidarité, mais je m'excuse, on a des gens à protéger et on a besoin d'un État qui accompagne aussi nos entreprises.
Alors, rapidement, pour terminer cette première partie, on va faire un tour de table avec une question toute simple. L'emploi qui concerne tout le monde s'interroge sur son emploi, sur ses emplois. L'avenir, pour rassurer les gens, il faut une économie forte, encourageante, rassurante, je ne sais pas les termes qu'il faut utiliser. Pour vous, Emmanuel Samatani, très rapidement, pour les Verts Riviera.
Oui, absolument, ce n'est pas du tout incompatible. Hein. Les Verts, c'est clair qu'on tire la sonnette d'alarme. Hein. Depuis, je rappelle juste qu'à partir de mi-juillet, on vit à crédit sur le plan environnemental. Donc, dans tout ménage, ça ne se passerait pas très bien. Donc, il y a des réponses à donner à tout ça. Et les Verts sont plutôt dans la positive. Hein. Là, effectivement, il y a un débat un petit peu gauche-droite, mais sur un plan personnel, je suis dans un camp qui va, j'espère, répondre le mieux possible aux défis que l'environnement nous pose devant nous. Alors, les Verts ont pas mal de réponses, si je peux, en trois mots.
En trois mots, c'est parfait, ça me va.
Alors, le revenu de transition écologique, ça c'est primordial. Aider toute entreprise, tout individu qui a envie de changer d'orientation et de devenir plus vertueux dans son activité, la mise en place de collaborations et de synergies entre les entreprises afin de relocaliser des productions, favoriser les circuits courts et faire de l'économie circulaire. Quand on crée un objet, il faut envisager sa fin de vie, son recyclage. Donc en fait, tout le paradigme dont on parlait, la production d'un produit, oui, mais jusqu'à la fin. Donc,
désolé, je vous coupe.
Alors, je vous laisse.
Ça faisait un petit peu plus que trois mots. Hein. En tout cas, sur le Valais, ça fait un peu plus que trois mots. Olivier Marc, très rapidement,
volontiers,
pour le PLR.
Au sujet de l'emploi, j'aimerais tout de même rappeler que dans ce canton, il n'y a que 2 entreprises sur 100 qui comptent plus de 50 employés. Ces petites PME sont très résilientes. Ce sont des équipes. Dans ces équipes, le patron travaille avec ses employés. Et puis, la lutte des classes, ça se passe vraisemblablement ailleurs, mais pas dans ces petites équipes. Pour que ces gens puissent travailler, eh bien, il leur faut des ressources, il leur faut des équipes motivées, il leur faut, pour concrétiser ces idées, il faut souvent des investissements. Et c'est finalement le cumul des entrepreneurs qui ont des idées, des équipes qui s'engagent et des investissements qui sont possibles, qui créent l'emploi, tout simplement. Et puis, pour ça, il faut encore de l'enthousiasme, parce que sans enthousiasme, il n'y a plus personne qui va venir dans le canton de Vaud pour entreprendre quoi que ce soit. Et c'est dans ce cadre-là qu'on œuvre au PLR.
Nicolas Fardel pour l'UDC Riviera.
Oui, merci. Pour moi, la réponse, elle est claire. Il faut que les entreprises aient le maximum de liberté de pouvoir faire les investissements qu'elles veulent faire. Et puis, je répéterai le message que j'ai dit avant, les circuits courts, vraiment la proximité, le fait d'avoir les entreprises d'ici qui puissent travailler ici, le fait d'avoir des personnes qui ont été formées, qui puissent être formés ici. Voilà, nous, c'est vraiment notre objectif principal et c'est pour ça qu'on œuvre sur ces questions économiques.
Cédric Bussy, pour le Parti Socialiste.
Oui, alors bah, je reprendrai un de vos mots, Monsieur Marc. Effectivement, enthousiasme. Je pense qu'il faut aussi du courage, le courage d'investir pour protéger ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont besoin de la solidarité collective. Je reprends le salaire minimum, je reprends la CCT, et aussi le courage d'investir pour soutenir, pour alimenter, pour enrichir cette transformation des PME vers plus de durabilité à la fois sociale et écologique.
Sylvain Jacquard pour les Verts libéraux, le Centre.
Nous vivons des changements permanents, qu'on le veuille ou bien pas. Et pour nous, il faut accompagner ces changements. Il faut aider les citoyens et les citoyennes à vivre et à avancer dans ce changement permanent. Et c'est certainement ni en taxant, ni en interdisant, ni en décroissant que l'on va arriver. Mais c'est en aidant les gens, en investissant dans l'accès aux différentes formations, au numérique, à tout ce qui va faire l'avenir, qu'on le veuille ou bien pas. C'est dans cet esprit-là que nous, on a envie d'œuvrer dans ce canton. Il faut protéger les gens qui n'arrivent pas à avancer aussi vite dans ce changement, ça on est tout à fait d'accord, mais il faut laisser un vent de liberté, il faut que l'initiative vienne là d'où elle doit venir, à savoir à l'unité la plus petite, l'entreprise ou le citoyen. C'est pas à l'État de tout régler, c'est pas à l'État de tout faire, car pour nous il est important pour l'avenir de ne pas laisser l'avenir avoir du retard.
Alain Gontier pour Décroissance Alternative.
Si l'avenir a du retard, on est mal parti. Petite question, le jour
on va pas ouvrir
où il y a plein
Gontier.
De pays qui sont en déshérence, on exporte où ? Quand il n'y a plus de questions ? C'est une question que je pose. En général, on nous parle de l'exportation. S'il y a un tas de pays qui sont en ruine, on exporte où ? La confiance de votre modèle. Maintenant, l'encadrement. Oui, j'essaie d'aller aussi vite que je peux. Le marché finit toujours par décider. Si un pays, une entreprise, même une PME de bonne volonté, peut fournir une prestation moins chère parce qu'elle paye moins ses travailleurs, parce qu'ils sont frontaliers, immigrés, clandestins, c'est elle qui gagnera le marché. Donc l'encadrement est nécessaire par des règlements, par des lois. Les PME, effectivement, dans les PME, les gens travaillent ensemble, les patrons. Mais beaucoup vient aussi des employés qui travaillent avec le patron de la PME. Et ce qu'on aimerait, c'est organiser, socialiser cet enthousiasme de la base, du salarié de base, socialiser l'économie. Le gros mot est lancé, vous allez tous tomber.
Vous l'avez lancé.
Socialiser l'économie.
Je vous coupe dans votre très rapidement.
Salaire minimum, reconversion professionnelle pour affronter les modifications de la société.
Voilà. Merci, magnifique. Suzanne Lambert-Furst pour les Libres Riviera.
C'est dans le concret qu'on fait les vraies différences. Alors, si je suis élue en tant que députée, je m'engagerai pour 3 points concrets. Premièrement, la formation. Ça veut dire les apprentissages et la formation continue, c'est essentiel pour, la population d'avoir un travail. Deuxièmement, l'innovation. Je suis une passionnée de l'innovation. Nous avons tous les atouts dans ce canton. Et le troisième point, c'est les énergies renouvelables, la transition énergétique.
Et on termine avec Ivo Piazza pour le POP.
Oh, déjà, M. Gontier se rassure, il ne m'a pas choqué. Ensuite...
Alors, on est rassuré.
On va revenir sur le... Ouais, alors nous, on défend bien sûr le salaire minimum, comme déjà ça a été défendu par d'autres. Il y a aussi une chose dont personne n'a parlé, c'est les impôts. Je crois que les gens payent beaucoup d'impôts. Nous, on propose le taux d'imposition unique. Il se trouve que 2/3 des gens, des Vaudois, ils paieront moins cher. Je crois que cette proposition est aussi partagée par d'autres.
Thématique effectivement qu'on n'a pas pu aborder ce soir.
De baisser les impôts.
Les impôts.
Mais du coup, ça pourrait peut-être apporter quelque chose.
On va rester sur cette
mieux
question.
Mieux payer les employés après.
Merci beaucoup, Ivo Piazza, pour le POP. Et nous arriverons au terme de cette première partie. Merci, mesdames, messieurs. On se retrouve tout de suite, le temps d'accueillir nos nouveaux invités.
Radio Chablais, spéciale élection.
Deuxième grande thématique de la soirée, les enjeux sociaux de demain. Et pour cette deuxième partie, nous accueillons de nouvelles candidates et candidats, avec toujours par ordre de tirage au sort des listes pour les Verts Riviera, Gaëtan Cousin, bonsoir.
Bonsoir.
Pour le PLR, Cédric Blanc, bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Nicolas Ferdel pour l'UDC Riviera, reste.
Oui,
rebonsoir. Pour le Parti Socialiste, nous a rejoint Laurie Villomé, bonsoir.
Bonsoir.
Pour les Verts Libéraux, le Centre, Manon Rotlisberger, bonsoir.
Bonsoir.
pour Décroissance Alternative, Joël Minacci, bonsoir.
Bonsoir.
Les Libres Riviera sont représentés pour cette deuxième partie par Emmanuel Geta, bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, le POP est représenté par Alain Delcette, bonsoir.
Bonsoir.
De nouveau, rapide tour de table, même question qu'à vos prédécesseurs. Pour vous, pourquoi cet engagement politique au sein de cette liste précisément? Alors, on commence avec vous, Gaëtan Cousin, pour les Verts Riviera.
Alors, bon, en ce qui me concerne, en tant que psychothérapeute, je vois énormément de personnes d'origines différentes, de niveaux socio-économiques différents aussi. Et je vois au quotidien ce qui préoccupe et ce qui fait souffrir les Vaudoises et les Vaudois. La violence du monde du travail actuel, les difficultés à trouver un équilibre entre le travail et la vie privée, les discriminations, la précarité. Et au fil des années, je me suis sensibilisé de plus en plus à ces questions et je pense que le politique a un rôle à jouer dans ces questions. Et en tant que vert, évidemment, je suis très inquiet aussi de la lenteur avec laquelle la transition écologique se fait. Et j'ai envie de contribuer à faire bouger les choses. Voilà.
Merci beaucoup, Cédric Blanc, pour les Libéraux Radicaux.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi, je suis candidat parce que je pense que c'est le moment. J'ai 20 ans de politique derrière moi, à l'échelon communal. J'ai été municipal dans le Chablais. On est à Radio Chablais, ça tombe bien. J'occupe actuellement un fauteuil au conseil communal de Montreux. J'ai toujours été intéressé par la chose publique, mais en mêlant finalement cet intérêt à mon engagement professionnel et associatif, je travaille dans le milieu social, dans le milieu de la formation de la jeunesse. C'est pour moi un enjeu fondamental pour notre société, pas de demain, mais d'aujourd'hui. Et puis, je suis aussi très intéressé et engagé pour les questions liées aux personnes âgées. Les questions de vieillissement de la population, c'est aussi un enjeu extrêmement important pour lequel je veux m'engager.
Alors Nicolas Fardel pour l'UDC Riviera, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure en début débat, donc on passe à Madame Laurie Viomé pour le Parti Socialiste.
Oui, merci beaucoup. C'est vrai que si je m'engage au sein du Parti Socialiste, c'est pour les thématiques qu'il va défendre, c'est-à-dire un service public fort, l'égalité des chances, la solidarité, mais aussi la justice environnementale. C'est aussi pour espérer avoir une majorité de gauche au sein du Grand Conseil, parce que c'est vraiment important pour qu'on puisse faire bouger les choses. Après, sur le plan personnel, c'est vrai qu'en étant municipale à Vevey, j'ai vu ce que c'était la politique communale. Et maintenant, j'ai envie de continuer cet engagement au niveau du canton. Et puis, plus que tout, je pense que les jeunes et les femmes ne sont pas assez représentés en politique. Et c'est une des raisons qui fait que je me présente.
Manon Rutlisberger pour les Verts Libéraux Le Centre.
En 2050, 23% des Vaudoises et des Vaudois auront plus de 65 ans. Et la température sur notre territoire aura augmenté d'environ 2,5 degrés. Les défis sont nombreux. Ça mérite un engagement. Mon engagement, il est premièrement milicien au sein du conseil communal de la Tour de Paix. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de mener maintenant mes idées au niveau cantonal. C'est pour ça que je m'engage au Grand Conseil, pour pouvoir permettre aux gens de la Riviera de grandir et de vieillir dans cette belle région.
Joël Minacci, même question pour Décroissance Alternative.
Oui, bonjour. Alors, moi, je suis conseillère communale à Vevey et puis je me suis engagée en politique, je pense plutôt au début du Covid, qui a été un déclencheur en termes d'urgence climatique, urgence sociale, mais aussi parce que je suis travailleuse sociale depuis plus de 10 ans dans le domaine de la protection de l'enfance. Donc tout ce qui est enjeux sociaux, c'est des choses qui me touchent particulièrement, les thématiques de la justice sociale. Et puis aussi parce que j'ai un engagement féministe. Et je pense que la place des femmes en politique est importante. C'est aussi la raison pour laquelle je me présente aujourd'hui au Grand Conseil.
Emmanuel Geta pour les Libres Riviera. Pourquoi cet engagement pour le Grand Conseil?
D'abord parce que nous avons la chance d'avoir un système politique qui permet d'avoir une certaine prise sur des réalités au niveau du canton. Et donc s'engager pour être membre du Parlement du canton, c'est une chance de pouvoir influencer vraiment sur des décisions qui ont une vraie portée et qui ont un vrai... je veux dire, des vrais résultats, je dirais. Et on a beaucoup de résultats à avoir ces prochaines années parce que ça a déjà été dit autour de cette table, le défi du réchauffement climatique, le défi de la biodiversité, aussi le défi de l'égalité. Ce sont des grands défis qui aujourd'hui doivent être relevés et on va devoir faire beaucoup de choses pour relever ces défis. Il y a beaucoup d'autres défis aussi. Il y a la question de l'économie, évidemment, mais on a la chance d'être dans un canton qui est économiquement fort et donc c'est peut-être pas la principale préoccupation aujourd'hui, alors que ça l'était il y a une trentaine d'années. À titre personnel, je suis conseiller communal depuis très longtemps ici à Montreux, je suis président des Libres du canton et j'ai porté trois fois une candidature au Conseil d'État, donc j'ai toujours bien aimé la politique cantonale, on va pas dire le contraire, et ça m'amuserait beaucoup de pouvoir être élu, ça m'intéresserait beaucoup, je le ferais avec beaucoup de sérieux, mais avec aussi le sens de l'humour quand il faut, parce que la politique doit rester sympathique, il faut pas monter les gens les uns contre les autres, mais justement essayer de trouver des moyens de travailler ensemble.
Et on termine ce tour de table avec vous, monsieur Alain Delsette, pour le POP.
Oui, alors moi je suis membre fondateur du POP Riviera, on va dire. Et pour moi c'est important justement de représenter la voix des ouvriers, des personnes qui n'en ont pas forcément l'occasion, savoir le salaire égal entre hommes et femmes, le salaire minimum, etc.
Des valeurs qui vous sont chères au sein de la liste, bien sûr. Alors, on va revenir sur cette thématique, les enjeux sociaux de demain, ils sont vastes, hein, les enjeux sociaux, sociétaux aussi. On a évoqué l'équilibre, la question de l'équilibre entre la vie de famille et le travail, c'est bien sûr au centre de bon nombre de préoccupations. C'est pas nouveau, hein. C'est une question qu'on se pose et une des interrogations qu'on peut avoir depuis de nombreuses années, qui interpelle notamment sur plusieurs listes. Alors, est-ce que cet équilibre, on peut l'atteindre une bonne fois pour toutes? Peut-être Manon Rotlisberger pour les Verts libéraux, le centre.
Oui.
Alors, c'est très bien.
Je pense que c'est très
important.
Comment? Voilà, ça, c'est la question la plus importante. Actuellement, on a des véritables problèmes. Les chiffres le montrent. On a 18 mois d'attente à peu près sur la Riviera pour pouvoir placer un enfant dans une structure de crèche qui s'appelle maintenant Réseau LAC. On a aussi une femme sur 10 qui a un retour de congé maternité, n'arrive plus à retrouver son emploi malgré son désir de travailler. Je pense que ces chiffres ne sont pas seulement préoccupants, ils sont choquants. Ils apportent un certain nombre d'enjeux. Chez les Verts libéraux, on a une solution. On demande un congé parental, et je pèse mes mots sur le parental, de 24 semaines, sans différenciation basée sur le sexe dans la loi, pour permettre justement non seulement de répondre à une question de parité, mais pour avoir aussi une société plus inclusive. On a été plus de 64% des Suisses à dire oui au mariage pour tous, une initiative verte libérale en automne 2021. On a envie d'une société qui est plus arc-en-ciel, plus diversifiée. Il faut aussi donner la chance aux parents de pouvoir gérer une parentalité comme ils le souhaitent et leur donner surtout les moyens d'y faire face sans avoir un grand risque, un retour de congé maternité comme il est maintenant.
Cédric Blanc, vous voulez réagir pour le PLR?
Oui, j'aimerais rebondir. Je pense qu'effectivement, développer des places en crèche et d'accueil de jour, c'est quelque chose d'important. Mais moi, j'ai beaucoup entendu aussi dans le débat précédent que la gauche souhaite investir massivement. Mais il s'agit... on est tous conscients qu'on est dans une période charnière, mais à la charge de qui? Et aujourd'hui, quand j'entends qu'il faut protéger ceux qui sont écrasés, donc principalement la classe moyenne, on veut encore investir et donc les charges, elles sont forcément reportées à travers des taxes et à travers l'impôt parce que c'est ce qui va arriver droit derrière. Donc je pense qu'il faut plutôt trouver d'autres voies aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut utiliser mieux les dépenses actuelles en matière d'accueil de jour? C'est privilégier des partenariats privés-publics. Là, les collectivités publiques peuvent aussi s'engager en faveur de ce type de partenariat. Donc j'aimerais souligner aussi cet état de fait. Il ne s'agit pas juste d'investir pour créer des places, mais qui paye à la fin?
Alain Delsette, du POP, voulait réagir?
Oui, alors moi, je trouve au POP, disons qu'on est assez pour un taux d'imposition unique qui comblerait justement... ce genre de manque, c'est-à-dire que le citoyen moyen, comme vous dites, il paierait peut-être un peu moins, ou
bien
proportionnellement, on va dire.
Bien un micro.
Oui, voilà.
Madame Laurie Viomet pour le Parti Socialiste.
Oui, merci. J'entends bien qu'on retombe sur les débats économiques, mais avant toute chose, il faut quand même juste recentrer le débat en termes de politique familiale. Il y a une urgence. L'UNICEF, quand elle fait le classement des pays riches, en termes de politique familiale, la Suisse est classée 38e sur 41 pays. Donc, je veux dire, il y a une urgence à ce niveau-là en termes de politique familiale. Donc, avant de réfléchir toujours l'argent, comment on va payer ça, etc., Regardons déjà les chiffres et puis essayons de trouver des solutions à des urgences. Parce que 18 mois d'attente pour une place en crèche, pour ma part, c'est une urgence. Alors pour ça, qu'est-ce que le Parti Socialiste propose ? C'est un congé parental, une initiative dont on est en train de récolter des signatures et qui se passe bien pour le moment. On a l'intention d'avoir ces 12 000 signatures d'ici le mois de mai. C'est une initiative qui est très bien reçue par la population. Nous, on propose 34 semaines et non 24. Donc 16 semaines pour la maman, 14 pour le père et 4 semaines à se partager. Puisqu'on veut parler de chiffres, il faut savoir aussi que le congé parental, c'est une manière de mieux réinsérer les femmes dans la vie professionnelle. Et puis ça, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence ? On a calculé qu'il suffirait 1% de femmes qui travailleraient en plus et ça financerait la moitié du congé parental, la moitié de ces 136 millions qu'on estime.
J'aimerais entendre aussi M. Gaëtan Cousin pour Les Verts Riviera.
Oui, absolument, parce qu'effectivement, on retombe dans les débats économiques. Alors déjà, simplement, en termes de logique économique, toute prospérité qui se fait sur le dos des femmes ou qui se fait sur le dos de certaines personnes n'est pas intéressante. Donc actuellement, on a un modèle où on accepte le fait que ce soit extrêmement compliqué pour les femmes et pour les hommes de faire garder leurs enfants. Augmenter le nombre de crèches, c'est un minimum. C'est un vrai problème en Suisse et en Suisse romande. En comparaison européenne, on a des solutions d'accueil extra-familial qui sont vraiment ridicules. Et donc, je pense qu'il faut à nouveau élargir ce débat et arrêter de penser en termes purement financiers. De manière générale, quand on parle de social, il faut aussi penser au coût de la précarité, au coût de l'exclusion, au coût du stress au travail aussi, parce que c'est aussi un débat qu'on peut avoir. Donc il faut arrêter de raisonner en termes purement financiers sur combien telle mesure coûte.
Alors, j'aimerais entendre encore Joël Minacci pour Décroissance Alternative sur cet équilibre vie de famille, vie professionnelle.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez crucial en termes d'enjeu social, de répartition des tâches aussi au sein de la famille. C'est vrai que la charge domestique repose essentiellement sur les femmes. Et puis, on soumet les femmes à une injonction qui est contradictoire. On leur demande de travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants et de s'occuper de leurs enfants comme si elles ne travaillaient pas. Et aujourd'hui, on a besoin absolument de réfléchir à une politique familiale qui puisse favoriser une plus grande égalité au sein de la famille, que ce soit en termes de crèches, par exemple. On pourrait imaginer d'introduire une obligation pour les communes de développer des crèches et des garderies, seules ou en collaboration, mais pour répondre aux besoins d'accueil de toutes les familles. On pourrait imaginer une revalorisation salariale des professions de la petite enfance. Et puis aussi l'introduction d'un congé parental de 3 mois qui s'ajoute au congé maternité et paternité à partager librement entre les parents.
Alors j'aimerais entendre encore M. Nicolas Fardel de l'UDC Riviera, ensuite M. Jetta et M. Blanc.
Oui, merci. Alors, juste pour rebondir à deux éléments qui ont été évoqués dans la première discussion, je partage la problématique du réseau Rêve, en tout cas sur la Tour de Paix. En tant que président de la commission des finances, on a eu l'occasion de voir à quel point ce réseau était compliqué, on va appeler ça comme ça. Ça prouve que les communes ont besoin, pour tout ce qui concerne le réseau de la petite enfance, d'autonomie. C'est-à-dire qu'il faut arrêter maintenant de faire des regroupements de communes avec des calculs savants, combien une commune qui va payer 30% parce qu'elle a une population qui dépasse tel et tel seuil. Même pour moi qui suis président de la commission des finances, c'est un casse-tête son nom. Donc pour moi, il faut revenir à quelque chose de simple, c'est-à-dire l'autonomie des communes. Et puis d'avoir, encore une fois, je leur dis, comme je l'ai répété dans le débat avant, la proximité, les gens de la commune qui sont finalement beaucoup plus aptes à gérer la question des enfants de leur commune. Et puis sur un deuxième point qui me paraît important de débattre également, je ne sais pas si on peut peut-être changer légèrement le sujet, c'est celui qui concerne la facture sociale. On revient, alors je suis navré sur les questions économiques, mais il y a actuellement une initiative qui a abouti, qui est en train d'être discutée au Grand Conseil, c'est l'initiative SOS Commune, qui demande que le canton récupère l'entier de sa facture sociale pour une bascule de 15 points d'impôt. Pour une commune comme nous, pour la Tour de Paix, c'est 2,5 millions d'économies. Et cet argent pourrait être investi pour ce réseau social. C'est pour moi un point important maintenant de rendre l'autonomie aux communes, que ce soit au niveau fiscal et aussi au niveau sociétal.
Alors non, nous n'allons pas revenir sur les enjeux économiques. Mais même si tout est imbriqué quelque part, Emmanuel Jetta, pour revenir sur cet équilibre, vie de famille, vie professionnelle, on sait que c'est compliqué. Quelles sont vos pistes ?
Alors, écoutez, quand toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Chablais pour en découvrir, puisque prochainement on fera un tour ménage qui sera dans les deux districts. Donc ils découvriront dans les boîtes aux lettres ce que nous défendons dans notre programme. Et le point numéro un, tout en haut à gauche de la page du programme, c'est favoriser l'égalité des genres. Donc pour nous, c'est un point qui est à côté de la biodiversité, qui est à côté de l'économie et le soutien aux jeunes entreprises, qui est à côté ensuite de la maîtrise de la croissance démographique, parce qu'on ne veut pas un canton à 1 million d'habitants. Donc pour nous, c'est un des points vraiment centraux de notre action. Et très concrètement, je crois que ce qu'il faut absolument dire, c'est qu'il n'y aura pas d'égalité s'il n'y a pas d'abord, dans le cadre de l'organisation de la famille, effectivement, un travail encore beaucoup plus important qui est fait, quel qu'en soit le coût pour l'accueil de la petite enfance. Et je m'oppose, disons, à ce débat qui dit qu'il faut attendre uniquement des solutions publiques-privées pour y arriver. Sur la commune de Montreux, qui n'est pas une commune aussi riche qu'on pense, à chaque fois, nous avons voté des nouvelles structures d'accueil de la petite enfance. Ça coûte cher, on est d'accord. Mais on sait que ça a aussi un rendement. Comme ça a déjà été dit, ça permet de libérer du temps de travail pour les femmes qui ont envie de travailler. En général, c'est bien elles qui font les sacrifices quand un enfant naît. Et par conséquent, on va le retrouver au niveau des impôts. Donc, il faut vraiment voir à long terme. Et il faut surtout se dire que l'égalité, c'est un objectif et qu'il faut maintenant absolument y arriver. On est en Suisse extrêmement en retard. Il n'y a qu'à voir, ne serait-ce qu'au niveau des candidatures pour les élections politiques. Je veux dire, regardez le nombre de gens qu'il y a autour des tables qui débattent. Il y a plus d'hommes que de femmes sur les listes, il y a plus d'hommes que de femmes, etc. Et dans le Parlement, il y en a plus aussi. Et il faut trouver aussi d'autres manières de donner des opportunités aux femmes. Je prends juste un exemple, parce que ça fait partie de l'égalité. Vous savez le nombre de conseils de fondation qu'il y a dans ce canton, surtout sur le social, sur la culture, etc. Regardez qui sont dans ces conseils de fondation. À 80-90%, ce sont des hommes. Et il faut absolument, par exemple, fixer une règle qui dit que tous les conseils de fondation de fondations qui reçoivent des aides publiques devraient avoir un minimum de femmes dans le conseil. Pour prendre un exemple tout simple, hein, j'ai participé à la création de la fondation du Montreux Jazz. 20 ans après, il n'y a toujours pas une femme dans ce conseil de fondation. Et bien, je pense par exemple, pour prendre cet exemple qui me concerne directement, et bien, je pense que c'est inacceptable aujourd'hui.
Donc on en revient à la notion d'équilibre, vie de famille, travail, homme-femme. Cédric Blanc, pour le PLR.
Je suis désolé si j'ai un peu orienté le débat sur les questions économiques, mais c'est vrai que quand on parle de facture sociale, voilà, nos auditeurs vont sans doute s'intéresser finalement à leur capacité, leur pouvoir d'achat et leur possibilité finalement de s'en sortir. Toutes les mesures qui contribuent à favoriser la vie familiale, l'organisation familiale, selon les modèles de société qu'on a aujourd'hui, la famille évolue effectivement, et je crois que c'est très important d'encourager le travail pour les femmes. Et il y a d'ailleurs une initiative qui a été lancée pour l'imposition individuelle qui va dans ce sens. Le PLR ne s'oppose pas du tout finalement à ce développement de nouvelles places de crèche ou ces mesures qui doivent encourager finalement le temps partiel pour que le papa et la maman puissent avoir une activité professionnelle tout en éduquant leurs enfants. Mais c'est le chemin pour y arriver en fait qu'il faut mesurer aujourd'hui. Le PLR propose lui des déductions fiscales pour les frais de garde. Je crois que ça c'est quelque chose aussi, c'est une mesure concrète qui est proposé, qui va dans ce sens, encore une fois, pour ne pas alourdir la charge de la classe moyenne, parce que c'est clairement cette classe-là qui est visée.
Laurie Vieumet pour le Parti Socialiste, après il y a M. Gaëtan Cousin pour le VR Riviera, et on reviendra vers vous, M. Jetta, si besoin, et Mme Minacci aussi.
Oui, merci. Bon, ben déjà, je suis très contente d'entendre que les libres sont pour l'égalité ont envie de proposer des solutions concrètes aussi pour la place des femmes dans les conseils d'administration. Je pense que c'est quelque chose de très bien et puis qui est absolument nécessaire. Maintenant, je voulais rebondir sur ce qui a été dit par rapport au réseau Rêve et futur réseau LAC. Je veux dire, si ce réseau n'a pas marché, ce n'était pas une question d'autonomie, c'était pour des histoires de coûts et principalement d'une volonté de certaines communes de vouloir augmenter les coûts, la charge des parents. Et puis je pense que ça, vraiment, c'est une des batailles du Parti Socialiste au niveau de la garde des enfants, c'est que oui, on veut augmenter le nombre de places. Hein, le slogan « un enfant, une place », c'est vraiment ce qui nous anime. Mais on veut créer ça à des coûts qui sont accessibles pour toutes et tous. Et quand j'entends le PLR proposer des déductions fiscales, ça ne répond pas à la problématique. De nouveau, on parle des coûts, oui, d'accord, on baisse la charge, mais ça ne répond pas à comment on permet aux familles de concilier la vie privée et la vie professionnelle. Et puis pour ça, j'ai l'impression, enfin, non, j'en suis même convaincue, que la seule façon, c'est de créer des places en crèche, et puis en préscolaire, mais aussi d'augmenter en parascolaire, et à terme, que ça devienne en fait un service public.
Quel est ton cousin pour les Verts Riviera ?
Oui, alors je tenais aussi à dire, en fait, les finances cantonales actuellement, elles vont bien. Ça fait des décennies de politique de droite qu'on s'occupe de l'économie. Ce qui va moins bien, en revanche, c'est la population vaudoise. Donc si on regarde le pourcentage de la population vaudoise qui souffre de problèmes psychiques, de gravité moyenne ou sévère, on est à un quart de la population. Donc ça, c'est les chiffres de 2017, avant la pandémie. Je peux vous dire que ça a bien empiré depuis. Il faut maintenant réfléchir. Alors, il y a aussi un problème massif au niveau du monde du travail, le nombre de gens qui sont stressés. On a un quart de la population qui se dit stressée tous les jours ou presque tous les jours au travail, qui présente des symptômes de burn-out. Il faut s'occuper de ça maintenant. C'est ça la priorité. Et créer un plus grand équilibre travail-vie privée, notamment en améliorant les solutions de garde, c'est une des solutions. Il y en a d'autres. Hein. On a été très axé jusqu'à présent sur ça. Il faut aussi développer le temps partiel pour les personnes qui le souhaitent, parce qu'on est malheureusement dans un monde du travail qui est extrêmement violent, extrêmement stressant, des rythmes de travail qui sont de plus en plus importants. Et donc, il faut trouver des solutions et maintenant réfléchir à comment améliorer la qualité de vie de la population. Ça, c'est la priorité.
J'aimerais encore entendre Mme Minacci, M. Geta qui a demandé la parole, et M. Blanc. Et ensuite, on passera à une autre thématique, la vie associative. Joël Minacci, pour des croissances alternatives.
Oui, quand on parle beaucoup du travail, hein, en même temps que la famille. Et je crois qu'il faut qu'on soit conscient, en tout cas, en termes des qualités des genres, et malgré un renouveau assez puissant des mouvements féministes en 2019, notamment avec la grève féministe, on voit que la pandémie est venue creuser les inégalités existantes en termes d'inégalités salariales, en termes de partage inéquitable du travail domestique, en termes de violences sexistes, homophobes et transphobes. Et puis nous, on veut mener une politique cantonale vigoureuse en faveur de l'égalité et puis contre les discriminations de genre. Et puis quand on parle de travail, ça passe aussi par exemple par une mise en œuvre contraignante de la loi sur l'égalité salariale entre les genres. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse permettre aux femmes de travailler et aux femmes d'être payées correctement. Quand on parle d'économie, etc., il faut qu'on arrête de faire des économies sur le dos des femmes. Par ailleurs, je pense que quand on parle aussi de travail, on prône un changement de société radical qui passe aussi par des changements assez fondamentaux dans la conception du travail. Ça veut dire qu'il y a certains métiers qui doivent être revalorisés, réinventés, remis au centre de l'activité de nos sociétés. Par exemple, une production alimentaire de qualité, une production responsable, avec des économies d'énergie, des métiers du travail social, de la santé. On veut lutter contre les bas salaires, qui sont souvent des bas salaires des femmes, de la précarité, etc. Et c'est pour ça qu'on a des mesures aussi qui viennent compléter toutes ces mesures familiales. Ce serait par exemple la semaine de 32 heures, travailler moins pour vivre mieux, mais avoir du temps vraiment pour être avec sa famille. Et puis aussi un salaire minimum cantonal net de 23 francs de l'heure.
Emmanuel Geta pour les Libres Riviera.
Oui, enfin moi je voulais juste revenir sur un point que je pense essentiel, c'est que à titre personnel, je voterais volontiers une des baisses des fiscalisations des frais de garde. Simplement, ça n'intéresse aucun des parents qui ne peut pas placer son enfant dans une garderie. Il faut donc d'abord mettre la priorité sur l'augmentation des structures d'accueil pour la petite enfance, avant de dire on va faire des rabais fiscaux à ceux qui placent leurs enfants. Quand il y aura assez de places, alors on pourra discuter, je dirais dans un deuxième temps, de ce genre de rabais fiscaux. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est créer les places. Parce qu'autrement, on met la charrue avant les bœufs.
Cédric Blanc, ensuite Manon Rotlisberger pour les Verts.
Je n'ai pas dit le contraire avant. Je pense qu'il faut effectivement aussi créer des crèches, mais voilà, il faut trouver comment on va les financer et les meilleurs chemins pour cela. Je veux juste revenir sur un aspect homme-femme qui a été avancé. Le fait qu'on prône une forme de quota au sein des conseils de fondation dans ce canton, je suis bien placé pour en parler. Je dirige une fondation qui a aussi un conseil de fondation qui est à majorité de femmes. J'ai 75% de personnel féminin. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la question du quota qui se pose, c'est la question de permettre l'accès à ce type d'activité par effectivement la promotion d'une organisation familiale qui est possible pour que les femmes puissent s'engager. Mais après, c'est en fonction de leurs compétences et en tout cas pas en fonction de de leur quota. Moi, j'aimerais juste rebondir sur ce que M. Cousin a dit tout à l'heure. La santé des jeunes, la santé mentale des jeunes en particulier, ça, c'est un enjeu actuel. On ne parle pas des enjeux de demain. C'est aujourd'hui, je rejoins cette analyse. Et puis, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de débattre tous les sujets, mais le vieillissement de la population, permettez-moi quand même de le placer, c'est quand même aussi un enjeu important. Il faut savoir qu'en 2050, on aura plus de 50% de la population de plus de 65 ans, une augmentation de 50% de cette population de plus de 65 ans. Et là, il y a aussi, en matière d'innovation, des prestations à développer, notamment par rapport aux investissements qui sont faits actuellement. Une place en résidentiel, ça coûte extrêmement cher. Et puis, il faut imaginer d'autres solutions ambulatoires. Il y a d'ailleurs un site communautaire qui est prévu à Vevey-Saint-Maritain. Et voilà, j'aurais aimé qu'on en parle, je l'ai dit.
J'aimerais entendre encore, pour revenir sur cette notion d'équilibre, quelque part, Manon Rotlisberger pour les Verts libéraux, le Centre.
D'abord, j'aimerais revenir sur une notion qui est très importante. Nous n'avons pas besoin d'être encouragés en tant que femmes, nous avons besoin de solutions. On a besoin de solutions durables, et les solutions durables, elles sont économiquement supportables, elles sont environnementalement supportables, elles sont socialement supportables. Et les trois doivent être prises dans l'équation, et c'est très important qu'on ne ferme pas les yeux sur l'une des trois notions. Actuellement, en Suisse, le tissu économique repose essentiellement sur des PME qui comptent environ 10 personnes. C'est cette branche-là de l'économie qui continue de croître. Et il faut donner aussi des solutions qui puissent être acceptées et acceptables pour notre tissu économique. Il faut aussi des solutions qui soient environnementalement tenable. Si on doit avoir des réseaux de garde, des plans A, B, voire Z, qui passent souvent par une économie grise, par des grands-parents, ce genre de choses, il y a énormément de transport, par exemple, qui est en fait, et la mobilité, c'est 32,4% des émissions en Suisse. Donc je pense effectivement que on doit avoir des solutions. Cette solution, elle doit vraiment prendre en compte ces trois piliers de la durabilité et qu'on puisse avancer en ayant ça en tête.
Alors pour clore cette question de l'équilibre et de l'égalité, Alain Delcède pour le POP.
Oui, ben pour moi, ouvrier, père, solitaire. Les crèches, c'est bien joli, mais si je vais à l'usine toute la journée et que j'ai pas un salaire minimum, ou que ma femme, elle est payée moins qu'un homme pour le même travail, je vois pas comment la crèche, elle va être payée, quoi. Enfin, pour moi, ça devient aussi simple que ça. Puis le débat politique, il est aussi simple que ça. Je veux dire, les personnes de bas salaire, elles peuvent pas simplement même participer à votre débat, je suis désolé.
Alors, est-ce que la situation est aussi simple que ça? Monsieur pose la question. Emmanuel Jetta pour les Libres Riviera.
Écoutez, quand même, en tout cas... Dans le système qu'on a sur la commune de Montreux, et je pense qu'il est le même dans beaucoup d'endroits du canton, la contribution des parents est évidemment proportionnelle à leurs revenus. C'est-à-dire que les parents qui ont très peu de revenus ne contribuent que très peu, voire pratiquement pas, au coût. Alors ça peut se discuter. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, très peu contribuer? Et puis, les gens qui ont des revenus importants contribuent beaucoup, beaucoup plus au coût d'accueil de la petite enfance. Donc ce côté proportionnel, il aide quand même les bas salaires à pouvoir profiter et bénéficier de ces mêmes structures d'accueil. Ça, c'est quelque chose qui est déjà en bonne partie pris en compte.
Alors on a compris des pistes à explorer, on pourrait encore en discuter pendant un bon moment. J'aimerais qu'on parle également de la vie associative, hein, aussi une thématique, en tout cas une vision importante. La vie associative et culturelle, bien évidemment, est également extrêmement importante pour le bon fonctionnement d'une collectivité. Aujourd'hui, il n'est pas toujours simple de faire vivre un club, une association, un espace culturel, en raison d'un manque de bénévoles, de moyens, de soutien. Alors comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour finalement encourager, favoriser cette vie associative ? Gaëtan Cousin, peut-être pour les Verts Riviera.
Alors, j'espérais que vous n'alliez pas me poser une question sur la vie associative. Parce que...
Eh bien, c'est fait.
écoutez, bah, évidemment que la vie associative, c'est important. C'est important pour le lien social, c'est important pour la cohésion sociale. Ce qui m'embête un peu avec le thème de la vie associative, c'est que c'est un thème qu'on aborde souvent comme si ça résumait beaucoup d'enjeux sociaux. Et puis, c'est une manière que je trouve finalement très de droite de déléguer à la société civile ce qui devrait revenir à l'État. Pour moi, il y a d'autres questions, d'autres enjeux qui sont beaucoup plus importants quand on parle d'enjeux sociaux dans le canton de Vaud. Le prix du logement, les logements dont les prix ont quasiment doublé depuis les années 90. Hein, en moyenne, les gens payaient 800 francs en 1990. Maintenant, c'est 1300 en moyenne. Hein. Donc ça, c'est des questions qui ont un impact extrêmement important. Après, est-ce que je suis pour la vie associative? Oui, je suis pour la vie associative.
C'est pas une histoire d'être pour ou contre la vie associative. C'est comment finalement la favoriser? Parce qu'on sent que les clubs, c'est ce qui fait vivre aussi les collectivités. On a besoin des associations, on a besoin des clubs, on a besoin d'espaces culturels. C'est difficile aujourd'hui. Donc, ce n'est pas d'être pour ou contre. Ce serait une aberration, c'est clair.
Mais par définition, la vie associative, elle se crée d'elle-même. Après, évidemment, il faut
créer des locaux. Mais elle n'est pas si simple à faire vivre.
Il faut donner des locaux à disposition. Il faut favoriser cette vie associative. Mais encore une fois, pour moi, c'est un accent qu'on met un peu trop souvent sur cet aspect-là. Et il y a d'autres enjeux beaucoup plus importants, à mon sens.
Sans aucun doute. Cédric Blanc, pour la vie associative.
Je ne partage pas la vision de M. Cousin. Je pense que la vie associative, c'est extrêmement important. Ça fait appel au génie local quelque part. C'est un terreau social, la vie associative. Et si on veut que des jeunes nous succèdent dans les prochaines élections, on espère que notre jeunesse va continuer à s'intéresser à la politique. Ben, la vie citoyenne, la vie civique, elle commence souvent dans les associations. Donc il s'agit de les soutenir parce que c'est un vecteur de santé. Ça, je pense que ça va vous parler, M. Cousin. C'est un vecteur de sentiment d'utilité sociale. Et aujourd'hui, les communes, le canton doivent absolument soutenir toute forme d'associations, ne serait-ce qu'aussi pour encourager l'engagement bénévole. Sur le plan culturel, dans notre région, je pense que les associations liées à la culture ne sont pas suffisamment favorisées pour l'accès à des locaux. Je pense notamment au 2M2C lorsqu'il s'agit d'organiser une manifestation. Et puis, au niveau sportif, le PLR veut défendre la création d'un centre sportif régional. On a parlé de mise à disposition d'infrastructures. Aujourd'hui, il y a un manque cruel d'infrastructures, notamment dans les sports de glace et les sports de natation, parce qu'on a des clubs extrêmement importants. Et il s'agit pour ça de développer un centre sportif régional, faire appel au Fonds du sport vaudois. Et là, en tant que député, je m'engage à faire en sorte que le Fonds du sport vaudois ait plus de moyens pour encourager les clubs sportifs dans ce canton.
Nicolas Fardel, sur cette même thématique.
Oui, je rejoins la ligne de mon collègue. Pour moi, c'est clair que la vie associative est vraiment importante. Et là, je reviens encore une fois sur une thématique qui m'est chère, c'est l'autonomie des communes. Le fait qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt si vous habitez à Montreux, si vous habitez au fin fond du Nord-Vaudois. Il y a aussi un savoir-faire local qui est différent. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et puis après, c'est vrai, tout ce qui peut favoriser ces entreprises-là, leur mettre des locaux gratuits à disposition, peut-être avoir une bureaucratie moins importante, pour avoir déjà fait 2-3 réservations de manifestations quand on doit remplir 5 ou 6 formulaires, mettre 3 fois la copie de la police d'assurance et tout ça, ça peut aussi décourager certaines associations. Donc tout ce qui peut faciliter l'allocation, le travail de ces bénévoles, tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre. Après, ça reste aux communes de faire aussi le geste et puis d'avoir cette proximité avec leur association.
Laurie Viomier pour le Parti Socialiste.
Oui, alors je suis assez d'accord que quand on parle de vie associative de manière très générale comme ça, il y a quand même une grande part d'autonomie laissée aux communes. On a mentionné les locaux avant, ça c'est typiquement des compétences communales. Maintenant, si je dois regarder à plus large échelle au niveau de la vie associative, moi ce qui me paraît important, c'est qu'on puisse soutenir typiquement l'idée que tous les enfants aient accès de manière gratuite aux activités culturelles, artistiques et sportives. Et puis en fait, en créant ça, on soutient en fait toutes les associations qui vont mettre à disposition leurs compétences, les associations culturelles, artistiques, sportives, etc. Donc ça, c'est un premier moyen, de manière générale, de soutenir la vie associative. Ensuite, vous avez parlé des clubs, donc des clubs sportifs. Et puis là, je pense effectivement qu'on a beaucoup de choses à faire. Hein. On entend les clubs sportifs qui perdent leurs bénévoles, qui ont de la peine à recruter des bénévoles, des moniteurs, des monitrices. Et ça, c'est une vraie problématique. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on doit vraiment pouvoir offrir un soutien aux bénévoles dans les comités, par exemple. Comment maintenant faire ce soutien? Ça peut être une compensation. Par exemple, sur les événements, être sûr que les transports publics sont gratuits, qu'il y a des repas offerts, ce genre de choses. Et puis, ça peut aussi être des sortes de reconnaissance hein, du statut de bénévole. Avoir l'impression que ce n'est pas juste du travail en l'air, mais qu'il y a une vraie reconnaissance derrière. Je pense que c'est vraiment important.
On continue le tour de table. Peut-être Manon Rotlisberger pour les Verts libéraux, le centre.
Alors, le rôle des communes a été mentionné à plusieurs reprises. Je ne peux que aller dans cette direction-là. Le tissu local forme le réseau associatif au niveau du canton, donc du Grand Conseil. Je pense qu'effectivement, là, il peut y avoir des mesures pour soutenir l'activité bénévole qui sont très importantes. Et puis, le canton peut aussi donner des outils aux organisateurs de manifestations. C'est par exemple le cas d'un kit manif qui donne des subventions aux gens qui souhaitent faire des manifestations, mais avec un cahier des charges, par exemple, sur le recyclage, sur l'utilisation de gobelets non jetables, etc. Et je pense que ça, c'est le rôle du Grand Conseil, mais ça reste un rôle qui est plutôt en retrait. Ce qui doit se passer, c'est vraiment au niveau des communes. Chez les Verts libéraux, on axe notre campagne autour de 15 minutes. Pour nous, c'est très important. Il faut habiter et appartenir à une région. Et il faut qu'on puisse donner les moyens aux gens sur la Riviera, dans un rayon de 15 minutes en mobilité douce, d'habiter, de travailler, s'approvisionner, se soigner, se former et s'épanouir. Et cet épanouissement, il passe en grande partie par cette vie associative.
Joël Minacci, sur cette même thématique pour des croissances alternatives.
Oui, alors nous, on soutient vraiment un accès plutôt populaire, en fait, au sport, à la culture. Pour nous, c'est des domaines qui doivent être accessibles pour tout le monde et toutes les couches sociales. Pour nous, c'est indispensable. Et puis, effectivement, le soutien aux associations, il est aussi essentiel hein, pour pouvoir mener à bien cet accès démocratique à la culture, au sport, etc.
Emmanuel Jetta pour les Libres Riviera. Est-ce aussi simple finalement de soutenir cette vie associative?
Alors, bon, certains savent peut-être que j'ai cofondé le QI Jazz Festival quand j'avais 17 ans. Le côté associatif, je l'ai vécu depuis toujours. Et je pense que dans le domaine de la culture, mais aussi de la vie sociale, le côté associatif est une richesse énorme. Et dans le fond, quelque chose qui vit à côté des mesures qu'on doit prendre sur le plan social. Donc, en aucun cas, j'opposerais les mesures qu'on doit prendre sur le plan social avec la vie associative. Je pense que les deux font partie de la vie sociale en général. Je pense qu'un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui avec la vie associative, c'est surtout pour les structures qui vivent, qui travaillent à l'année. Si vous avez un festival, je peux vous garantir que pour l'instant, tous les festivals qui marchent n'ont aucun problème à recruter des bénévoles pour venir travailler. Il y a souvent des listes d'attente très longues, un peu comme pour les garderies. Mais là, c'est pour venir travailler gratuitement et bénévolement dans les festivals. Il n'y a pas de problème. Où c'est beaucoup plus difficile, c'est toutes les structures qui travaillent à l'année. Et moi, une des craintes que j'ai, c'est qu'effectivement, il y a un phénomène de bureaucratisation de tout. Et notamment les demandes d'autorisation, mais aussi les responsabilités que maintenant, de plus en plus, on met sur les gens qui organisent quelque chose. Et je pense que s'il y avait une chose à essayer de faire, et je ne sais pas à quel point c'est techniquement possible, mais ce serait de mettre en place une sorte de loi qui permettrait de décharger sur le plan notamment des responsabilités, dans une certaine mesure, les organisateurs. Parce qu'aujourd'hui, suivant ce que vous faites, vous pouvez être considéré comme responsable à un niveau qui est tellement grave que vous avez effectivement, dans certains domaines du bénévolat, des gens qui commencent à hésiter à s'engager. Et je pense que là, il y a vraiment une réflexion à porter. C'est une réflexion compliquée, mais il y a peut-être des solutions. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait essayer de trouver pour permettre à la vie sociale de continuer à exister. Indépendamment évidemment de la mise à disposition des infrastructures qui est essentielle évidemment, et puis des soutiens financiers et des subventions qu'il faut accorder à la vie associative.
Alors pour terminer ce tour de table, parce que le temps file très vite, j'aime encore entendre Alain Delsette pour le POP.
Oui, bah alors pour moi la vie associative, c'est la base de notre société en fait. Je veux dire, elle représente les citoyens, les ouvriers, ceux qui ont envie de partager leur passion, et puis c'est hyper important de les promouvoir dans le sens de les faire voir, ainsi que aussi de les promouvoir dans le sens subvention, etc. Et comme disait, je ne sais plus qui, Madame Villomé, je crois, mais aussi d'en faciliter l'accès, peut-être au niveau de la paperasse, etc. Parce que c'est vrai que
simplifier toutes les démarches administratives.
Ouais, voilà, exactement, parce que c'est vrai que l'ayant fait plusieurs fois, on a souvent des bâtons dans les roues.
Et on s'y perd. Alors, on l'a compris, on aurait pu débattre encore bien longtemps sur différentes thématiques. Désolé, on arrive au terme de ce débat, je suis navré. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cet échange. On rappelle que le premier tour des élections cantonales vaudoises aura lieu le dimanche 20 mars, une journée que vous pourrez vivre en direct sur Radio Chablais. Et on rappelle également que vous pouvez retrouver ce débat en intégralité en podcast sur notre site internet radiochablais.ch. Excellente soirée.
Radio Chablais, spéciale élection.
On le rappelle, les candidates et candidats du mouvement Droit et Liberté n'ont pas pu participer au débat en raison de la situation sanitaire exigeant le pass de jet au moment de l'enregistrement. Alors afin d'offrir un temps de parole équitable, nous accueillons hors débat Lynne Dardenne. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous aurez donc l'occasion d'exposer vos arguments sur, on va rappeler, les deux thématiques qui ont été abordées ce soir, à savoir l'économie et le social. Mais avant cela, peut-être en quelques mots, que signifie pour vous cet engagement sur cette liste, donc on rappelle, c'est la liste Alliance des Libertés. Qu'est-ce que ça représente, cet engagement politique au Grand Conseil ?
Alors, c'est une nécessité de pouvoir représenter une partie de la population qui a été désavouée, qui n'a pas compris ce qui s'est passé, qui ne s'est pas sentie représentée. Et en fait, c'est surtout en fait, ce que je peux faire vis-à-vis de mes enfants pour leur offrir un avenir. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis aussi là pour défendre les entrepreneurs parce que je ne me suis pas sentie représentée avec 3 entreprises dans différents domaines. Et je pense que c'est aujourd'hui à vraiment prendre les leçons de ce qui s'est passé pour plus que ça puisse se reproduire.
Donc c'est un engagement, c'est un engagement politique, mais aussi humain. Si on,
militant, exactement.
Militant humain, ouais. Et civique.
Civique, exactement. C'est vrai qu'en ayant manifesté, en ayant amené des tracts un peu à droite à gauche, en ayant essayé de faire des conférences éthiques avec des médecins devant les hôpitaux de Rivière à Chablais, j'ai essayé de faire un peu tout ce que je pouvais à mon niveau. Mais aujourd'hui, je pense que ça faisait un bon moment que je le disais, ça faisait plus de 8 mois que je disais qu'il fallait être aussi représenté finalement dans tout ce qui est décisionnel. Et aujourd'hui, pour faire les choses légalement, il faut être en politique.
Alors vous l'avez évoqué, l'entrepreneuriat, un thème important qui s'intègre bien évidemment dans l'économie, les enjeux économiques de demain. Selon vous, quelle doit être la politique en matière d'investissement ? C'est une des questions qu'on a abordées durant le débat. Est-ce que ça doit être la politique de la prudence ou au contraire, il faut savoir prendre des risques en politique et en économie surtout ?
Alors, je vais revenir un petit peu à l'argent que la Confédération a mis pour toutes ces doses et pour toute cette politique finalement sanitaire qui n'a servi à rien pour moi. Donc aujourd'hui, si on prend le même investissement qu'ils ont mis pour essayer de redonner un souffle de vie à toutes ces PME qui ont été lâchées pendant cette crise, du coup, ça va créer de l'emploi. C'est aussi pour encourager l'économie locale, les circuits courts, donner un nouveau souffle justement dans cette flexibilisation des entreprises, parce qu'aujourd'hui, on voit que ces normes, ces paperasseries administratives, elles plombent l'économie au lieu de donner justement cette espèce d'élan pour pouvoir faire plusieurs choses. On voit que des entreprises qui ont pu compter sur différents domaines d'activité, comme en ayant par exemple un café-restaurant avec une petite épicerie de quartier dedans, avec peut-être aussi un service de livraison traiteur qui pouvait aussi travailler sur Internet, ont beaucoup mieux suggéré les différentes fermetures et puis proposé des panels d'offres beaucoup plus élargis qu'une entreprise qui faisait qu'une seule chose. Too big to fail, au final, on voit qu'il y a énormément d'entreprises qu'on n'a jamais pensé qu'elles seraient en difficulté, qui ont fermé parce qu'elles ne faisaient qu'une seule chose. Mais c'est aussi aujourd'hui une nécessité de flexibiliser justement toutes ces normes. Moi, j'ai vu avec un concept store aujourd'hui pour faire revivre un village, on a été embêtés pour tout parce que les normes incendie ne sont pas les mêmes, les horaires de fermeture ne sont pas les mêmes, parce que les patentes, ce n'est pas les mêmes. En fait, on nous embête pour tout et ça décourage les entrepreneurs. Et aujourd'hui, on voit qu'il faut absolument axer sur un modèle d'investissement où on va plutôt encourager les petites PME, les entreprises, les SARL, les SA, pour créer de l'emploi au niveau local avec des idées novatrices et plutôt essayer d'aider à subventionner, à alléger en fait les tracasseries administratives au lieu de faire l'inverse.
Alors, vous parlez de nouveautés, de choses différentes pour soutenir l'emploi, le marché de l'emploi qui souffre. Alors quelles sont ces pistes finalement ?
Alors, Aujourd'hui, on aide beaucoup tout ce qui est multinational à s'investir chez nous. On sait tous que ce sera pour des dizaines, vingtaines d'années. Et puis ensuite de ça, ils vont repartir. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment prendre... pourquoi est-ce que finalement ces multinationales ont droit à des immenses aides et des paquets fiscaux qui sont obscurs, alors qu'en fait, on ne pourrait pas dire que toutes les PME qui sont locales ne puissent pas également avoir des allègements fiscaux, par exemple jusqu'à 2 ans après avoir été enfin rentable, qu'à ce moment-là, elle serait imposée d'avoir des facilitations pour avoir des crédits, d'avoir des aides en termes de mise sur pied. Pourquoi est-ce que c'est qu'une élite qui finalement, aujourd'hui, j'ai tendance à dire, et c'est vrai, je l'ai vu de ma part, quand on a 90% de fonds propres et qu'on demande 50 000 francs, les banques vous refusent. Il faut encore faire avec un centre de cautionnement où vous donnez carrément l'étiquette de votre string. Aujourd'hui, ce n'est pas normal en fait, d'être cautionnaire personnel pour une entreprise, de ne pas pouvoir retirer son deuxième pilier, d'être après au social, de ne pas pouvoir toucher le chômage alors qu'on y cotise en tant qu'indépendant. Mais c'est une honte, en fait. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on devrait avoir les mêmes droits que les employés, finalement. Parce qu'on cotise à la même chose et ça ne donne pas du tout un élan pour se mettre à son compte et créer de l'emploi.
Alors, on a compris, mieux valoriser et favoriser l'entrepreneuriat. On va passer à la deuxième thématique, à savoir les enjeux sociaux qui sont étroitement liés hein, aussi, avec notamment cette question de l'équilibre entre la vie de famille et la vie professionnelle. On sait que ça, c'est une grande problématique dans tous les ménages. Alors, c'est au centre des préoccupations, selon vous. Comment rassurer les concitoyens, les concitoyennes dans cette recherche de l'équilibre ?
Alors déjà, c'est sûr qu'en ayant moi-même une crèche et une école Montessori, en ayant des enfants, je suis sensibilisée à ça. Quand j'étais entrepreneuse aussi, j'ai réalisé qu'en fait, les horaires d'école où les enfants, finalement, ils terminent à 11h15, ils commencent à 9h le matin, après, ils recommencent à 2h15 pour finir à 4h moins 10. C'est du grand n'importe quoi. Les accueils parascolaires ne sont pas suffisants. Les enfants sont parqués, hein, on doit le dire. Ils sont parqués, il n'y a pas d'accueil dynamique. On ne leur propose pas des cours de musique, on ne leur propose pas. Les parents sont prêts à payer, mais ils ne peuvent pas se libérer, plus aller travailler. C'est surtout aussi le problème. Ensuite, un parent qui finalement a travaillé à la maison, parce que pour moi c'est un travail, il faut revaloriser ça aussi, de dire ok, ça veut dire que la personne elle doit cotiser entre guillemets pour sa retraite. Aujourd'hui c'est une problématique aussi ces retraites, pouvoir retrouver du travail quand on a fini en fait d'éduquer nos enfants et de s'en occuper. Mais il y a toute cette problématique justement de la logistique, de la prise en charge. Clairement les communes disent qu'elles font le maximum, que c'est difficile, mais il y a aussi cette notion de coût, ça coûte très cher et c'est pour ça aussi que les communes ne mettent pas ça en place. Ce n'est pas une volonté en fait, je l'ai vu de l'intérieur. Donc ça coûte et aujourd'hui on demande aux entreprises qui sont privées, qui peuvent proposer la même chose, de s'aligner avec les salaires qu'on propose en public. Ce n'est pas possible. On n'est pas sous perfusion, nous. On est obligé d'être dans quelque chose de rentable ou en tout cas où on ne coule pas. Donc aujourd'hui, on peut proposer beaucoup de modèles différents pour aider les familles. Et c'est comme, par exemple, quand vous avez un enfant et puis qu'il faut absolument s'inscrire dans la crèche qui est dans le réseau de là où vous habitez. Mais vous vous rendez compte, aujourd'hui, on peut déménager tous les 6 mois. Comment est-ce qu'on fait pour se projeter ? Il faut quelque chose de beaucoup plus flexible à ce niveau-là également.
Alors, très rapidement, on a aussi survolé durant le débat la question de la vie associative, une problématique pour certains, pour d'autres pas forcément. Qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner des couleurs à la vie associative qui est quelque part les premiers pas pour les plus jeunes dans la vie citoyenne, quelque part ?
Alors, écoutez, aujourd'hui, on est plutôt à l'hémorragie de la vie associative, il faut le dire clairement. En tant que président des intérêts de Tarité, donc du village où j'habite, on réalise qu'avant, on avait au moins la taxe de séjour qui nous permettait et qui nous soutenait un petit peu pour faire les différentes activités, pour pouvoir aussi offrir des choses aux gens. Parce que finalement, on n'est pas payé dans ces associations, on le sait bien. On donne déjà de notre temps, de notre énergie à côté de notre travail. Mais si en plus de ça, on doit donner notre argent pour monter une association, pour donner des crêpes aux enfants, pour amener des petits pains à la Saint-Nicolas, ça ne va plus être possible. Aujourd'hui, on ne peut plus compter en fait, sur les communes, on doit le dire. Et on ne sait pas en fait, comment on va être. On voit déjà des différentes associations qui crient à l'aide au niveau du conseil communal pour demander des enveloppes ou quand même des subsides. Parce qu'on ne peut plus mettre en place, comme par exemple les fêtes de Bran ou comme ça. C'est extrêmement compliqué pour nous en termes de... On ne sait pas combien on va toucher. Et ça, c'est des choses qui redéterminent d'année en année. Et chaque fois, ça sera moins, moins, moins.
Alors pour terminer, vraiment en quelques mots, parce qu'on arrive au terme de cet entretien, que peut apporter votre liste sur l'échiquier au Grand Conseil ?
Alors justement, on pourra avoir une meilleure représentativité finalement de la population. On a des gens qui connaissent le terrain. Qui sont entrepreneurs et qui vraiment voient des difficultés de près, qui ont envie vraiment de discuter avec les gens pour savoir finalement les problématiques qui sont essentielles. Et je pense que c'est ce lien finalement à l'essentiel qui est important.
Lynne Dardenne, merci beaucoup d'être venue nous en parler. Et on rappelle que le premier tour des élections cantonales vaudoises aura lieu le dimanche 20 mars, une journée que vous pourrez suivre et vivre en direct sur Radio Chablais. Excellente soirée.
Radio Chablais, spéciale élection.